aventurière, surnommée la Dame de la Mer.
Attention, on n'a pas dit les dents de la mer.
Arnèche-toi bien, ça va tanguer, on va prendre les embruns plein la figure. Nous embarquons pour le Grand Nord jusqu'à Terre-Neuve, au Groenland. Enfile tes bottes et ton chéri, nous allons te conter l'histoire d'Anita Conté.
Oulala, t'as déjà le mal de mer.
Pardon. Nous allons te conter l'histoire d'Anita Conté.
C'est parti, Moussaillon.
Anita Caragotchian naît en 1899 dans une famille bourgeoise. Son père, métier hygiéniste, préconise la vie au grand air. L'été, Anita et ses parents partent en Bretagne, au bord de mer. Alors qu'elle est encore un petit bébé de Dieu, son père la jette à la mer pour qu'elle se familiarise avec le monde aquatique le plus tôt possible.
C'est bien simple. J'ai appris à nager avant de savoir marcher. J'étais prédestinée.
Quand la Première Guerre mondiale éclate en 1914, la famille se réfugie chez une tante sur l'île d'Oléron. Anita rencontre des marins. Elle les supplie de la faire monter à bord.
À marée basse, elle se passionne pour l'estran. Les crevettes, les algues, les étrilles, elle est curieuse de tout. N'est-ce pas fabuleux, toute cette vie cachée sous les rochers ?
L'adolescente, assoiffée de connaissances, récolte des échantillons et prend plein de photos. Quand elle revient de ses expéditions, les cheveux emmêlés et pleins de sel, malheur à qui la traite de garçon manqué.
Je ne suis pas un garçon manqué, je suis une fille réussie.
Lorsqu'elle ne crapaille pas sur le rocher, Anita se plonge dans des livres. Elle adore ça.
Anita devient relieuse d'art. Elle invente une technique bien à elle. Très douée, elle reçoit plusieurs récompenses.
En 1927, Anita épouse Marcel Conti. Il est secrétaire d'ambassade à Vienne. Les dîners mondains, très peu pour elle.
Marcel, je t'estime beaucoup, mais je reste à Paris. Nous nous retrouverons pour les prochaines vacances.
Dans l'atelier d'Anita, ça sent le cuir. Elle adore cette odeur. Mais parfois, le grand air et l'océan lui manquent. En plus de son activité de relieuse, elle devient journaliste et écrit plusieurs articles sur le monde de la mer. L'Office scientifique et technique des pêches maritimes remarque la qualité de son travail et l'embauche comme chargée de propagande.
Yaha ! À l'abordage, marin d'eau douce !
Anita embarque sur le premier navire océanographique français, le président Théodore Tissier. À bord, elle prend des photos et seconde les scientifiques. Jamais une femme n'a fait ce métier. Anita est la première océanographe française.
À cette époque, les équipages ne sont composés que d'hommes. On a l'habitude de dire qu'une femme en mer, ça porte malheur.
Comme les animaux aux grandes oreilles dont les marins ne veulent pas entendre parler.
Les lapins ?
Chut.
Pff, comme les femmes. Ils n'ont rien fait pour mériter ça. Et je suis bien la preuve que les femmes peuvent tout autant que les hommes prendre la mer.
Anita en redemande. En 1939, le chalutier à vapeur Viking part pour 3 mois pêcher la morue au Spitzberg. Aucun scientifique ne veut y aller. Anita, elle, n'a pas froid aux yeux. Elle embarque avec une cinquantaine de marins.
La vie est rude sur un chalutier, mais Anita exulte. Elle effectue des relevés, prend des notes, grimpe dans les haubans comme un petit ouistiti avec son appareil photo. Ses clichés sont saisissants. Elle est mille fois plus heureuse à la passerelle d'un navire que dans un salon parisien.
Anita n'a peur de rien. Au début de la Seconde Guerre mondiale, elle participe au déminage du port de Dunkerque. Quand elle retrouve la terre ferme en 1940, la France est occupée. Anita se résout à rejoindre sa meilleure amie, Pâquerette de Quénétin, à Cannes.
Pâquerette comme une pâquerette ?
Oui, oui, tu as bien compris. Et puis zut alors, il y a bien des violettes et des roses dans ta classe, non ? Laissons les fleurs tranquilles et suis-moi jusqu'en Afrique pour rejoindre Anita.
À ce moment, la France est occupée et il est impossible de pêcher au large des côtes françaises. Le gouvernement français envoie Anita étudier les possibilités de pêcher au large de la Mauritanie et du Sénégal. Pendant 15 mois, elle passe de navire en navire pour former les pêcheurs français et cartographier les fonds marins.
Grâce à elle, les Français peuvent à nouveau manger du poisson.
Pâquerette la rejoint en 1947.
La guerre est terminée et ensemble, elles se lancent dans un projet humanitaire pour aider les populations locales à mieux se nourrir. Elles sont soutenues par l'État français. Tandis que Pâquerette reste à terre pour développer des pêcheries, Anita part pêcher le requin en pirogue avec les Africains.
Regarde cette belle bête, Pâquerette. La pêche a été bonne. Nous avons dû lutter et j'ai les fesses trempées, mais nous l'avons eue.
Oh, Manita chérie, tu es si intrépide! Ce requin va nous permettre de nourrir tout un village.
Je suis tellement heureuse que tu sois auprès de moi pour développer ce projet de pêcherie.
En 1952, Anita embarque de nouveau sur un chalutier. Le bateau part chasser la morue sur les bancs de Terre-Neuve de l'autre côté de l'océan Atlantique. Il faut supporter le froid, les tempêtes, les icebergs. Et bien que le navire s'appelle le Bois Rosé, ça ne sent pas la rose dans les cabines des marins partis en mer pour 6 mois.
Ah, ça pue la vieille chaussette et la sueur là-dedans.
Une fois de plus, Anita est la seule femme à bord. Pour se faire accepter, elle applique sa règle d'or.
Je m'attache à n'avoir ni froid, ni faim et à ne jamais me plaindre.
En mer, elle tient un journal de bord. Anita sait décrire comme personne la vie de ces marins pêcheurs. Le froid cinglant, le travail harassant, le pont rempli de viscères et de boyaux luisants. Mais aussi la camaraderie et la fierté des marins quand la pêche est bonne.
Mais quand le poisson n'est pas au rendez-vous, il faut distraire les marins abattus. Ce jour-là, la morue fait défaut. Elle fuit devant les apocales, sorte de requin fréquent dans ces mers froides. C'est ainsi qu'une idée farfelue sort de la casquette du capitaine.
Que diriez-vous, Anita, de jouer les vedettes de cinéma? Au prochain apocale que nous remontons, vous coucherez dedans pour amuser les matelots.
Je suis celle qu'il vous faut.
Cela donne une scène incroyable. Anita s'est introduite dans le ventre du requin, mais le bateau gîte et... Et elle se retrouve les 4 fers en l'air sur le pont, baignant dans tout ce mucus, ce sang et ses viscères. Elle appelle ça le sanguin.
Il en faut plus pour dégoûter Anita. Elle rit aux éclats.
À son retour, elle publie « Racleur d'océan » et parcourt la France entière pour faire des conférences sur la pêche. Dans son sac, un fidèle compagnon l'accompagne.
Héliodore, veux-tu bien rester en place, s'il te plaît? Héliodore, laisse la dame tranquille. Reviens autour de mon cou. Tiens-toi tranquille.
Oui, Anita a des goûts bien à elle pour choisir d'étranges animaux de compagnie. En mer, elle recueille les oiseaux fatigués qui arrivent sur le bateau et les soigne dans sa cabine. À terre, elle a un piton. Dans les librairies, elle fait sensation. Anita aime passionnément les animaux et l'océan. Ses multiples expériences à bord des bateaux de pêche la font beaucoup réfléchir.
Tous ces chaluts qui raclent les fonds marins, est-ce bien raisonnable? Est-ce qu'on ne va pas piller l'océan jusqu'au dernier poisson si on continue comme ça? Comment préserver les ressources? Pêchez moins, mais pêchez mieux. C'est ça la solution.
En 1960, Anita revient d'une mission sur un chalutier breton. Dans les cales du bateau, 3,5 tonnes de sabres. Les pêcheurs le considèrent comme un faux poisson, car les Français n'en mangent pas. Malheureusement, tout va partir à la poubelle.
Anita ne supporte pas ce gaspillage. Elle lance une campagne de communication dans les journaux. Elle convainc des chefs cuisiniers de l'aider. Et ça marche! Le sabre devient à la mode. Anita veut aller plus loin. Elle met au point un prototype de chalutage plus sélectif qui n'abîmerait pas les fonds marins, mais abandonne ce projet.
À quoi bon fabriquer encore un nouvel engin qui va puiser dans les ressources de l'océan jusqu'à tout faire disparaître? Et si la solution, c'était d'arrêter de pêcher et d'élever des poissons comme on élève des poules ou des moutons?
Anita se lance dans l'aquaculture. Elle se rend en Norvège pour expérimenter l'élevage de cabillauds, qu'elle appelle ses babies. Mais cette solution n'est pas un miracle. Pour élever des poissons, il faut pêcher des poissons sauvages pour les nourrir.
Anita embarque jusqu'à ses 88 ans. C'est une force de la nature. Elle n'arrêtera jamais de se battre pour la protection de l'océan. En 1986, elle rencontre Laurent Giraud. Ils deviennent tout de suite très proches et ne se quittent plus. Elle a prévenu Laurent et tous ses amis.
Le jour de ma mort devrait être une fête.
Elle ne pensait pas si bien dire. Anita Conti s'est éteinte à Douarnenez, en Bretagne, le jour de Noël. Ses cendres ont été dispersées dans l'océan.
Elle nous laisse tant d'archives que cela pourrait remplir les soutes de 2 chalutiers. Des dents de requins, des milliers de photos et des pellicules de films, plusieurs livres, des notes, des carnets.
Avec l'aide de Laurent, elle a pris soin de tout trier et a légué ce précieux témoignage de la pêche au XXe siècle à la ville de Lorient.
Merci Anita!
Ce podcast a été réalisé spécialement pour le concours L'École des Odyssées, organisé par France Inter. Il a été enregistré avec les voix des élèves de CM2 de l'école Jacques Héroas à Brest.
Héloïse, Kétouine, Anatole,
Lily,
Simon,
Marius,
Joshua,
Arthur,
Jade,
Adam,
Anatole,
Sakina,
Alban,
Jeanne,
Nora,
Augustin,
Émile,
Antoine,
Quentin,
Aaron,
Jules,
Émilie,
Maëlle,
Romane,
Zoé,
Marin.
Nous remercions la ville de Brest et toutes les personnes qui nous ont accompagnés sur le projet. En particulier Philippe pour la documentation, Virginie pour l'aide à l'écriture et Martin pour la réalisation.